Radio Okapi. À la présentation du journal, Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité débutent ce mardi à Johannesburg du 15e sommet des BRICS. Au menu du sommet, le partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et inclusif. La RDC est représentée à ce sommet par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kyenge. Engouement aujourd'hui au dépôt des candidatures pour les provinciales et les communales dans la province du Sud Kivu. Un engouement observé en ce début de la semaine à l'approche de la fin de cette opération. Notre invité, c'est le chef des divisions des actions humanitaires de la Tchopo. Antoine Lokangila revient sur la remise le week-end dernier des intrants aux déplacés du conflit communautaire entre les Mbole et les Lingola dans le site de Konga-Konga. Madame, messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe vient d'acquitter ce soir Fortuna Biselele, ancien conseiller privé du président Félix Tshisekedi Tshilombo, renvoyé de fin de poursuite faute de preuves étayant les accusations formulées par le ministère public. Fortuna Biselele recouvre sa liberté définitive et se voit ainsi innocenté par la justice. Accusé de trahison et d'intelligence avec le Rwanda, Fortuna Biselele était arrêté le 14 janvier dernier et gardé à vue par l'ANR à Kinshasa, puis présenté au tribunal le 7 avril. Il avait bénéficié d'une liberté provisoire le 22 juillet dernier et c'est le 4 août dernier que son affaire a été inscrite sur le fond et débattue contradictoirement avant d'être rapidement plaidée et désormais close. Ouverture ce mardi pour deux jours à Sainte-Anne, à Johannesburg, du 15e sommet de BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Thème choisi cette année 2023, BRICS en Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Les participants au sommet vont débattre de l'élargissement du groupe aux nouveaux pays de la planète. Les dirigeants des 67 pays d'Afrique et du Sud global vont ainsi inviter d'autres pays à l'ouverture et à certains événements. La RDC est représentée à ce sommet par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kyenge. C'est ce que nous explique Alain Rungmushinge.
Actuellement présidé par l'Afrique du Sud, le club des BRICS regroupe 42% de la population mondiale, soit 3,2 milliards de personnes et environ 25% du PIB mondial. Mais avec 23 pays candidats officiellement pour intégrer l'organisation, cet espace géopolitique pourrait à terme constituer plus de la moitié de la population mondiale. Parmi eux se trouvent principalement des pays africains comme l'Éthiopie, le Sénégal, l'Algérie et l'Égypte, séduits par le non-alignement politique et économique des BRICS. D'autres États africains se sont montré intéressé pour rejoindre l'organisation sans pour autant porter de candidature officielle. C'est le cas du Gabon, des Comores ou de la République démocratique du Congo. Les pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ou encore l'Iran sont candidats. Une dizaine d'autres pays sont candidats, notamment en Amérique latine et en Asie. Si Lula, Xi Jinping et Narendra Modi seront présents autour du président sud-africain Cyril Ramaphosa, un personnage clé manquera à l'appel, Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe, ce qui aurait obligé l'Afrique du Sud à l'arrêter dès son arrivée sur le territoire. Il sera représenté par Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères.
Les facilités qu'offrent actuellement les zones économiques spéciales en RDC attirent davantage les opérateurs économiques nationaux et étrangers. La société japonaise UDTrack, spécialisée dans le montage des véhicules basés à Pretoria, promet de venir s'installer dans certaines zones économiques spéciales, faisant partie de la délégation gouvernementale qui accompagne le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kyenge au sommet de BRICS à Johannesburg. Le ministre de l'Industrie a visité ces usines d'assemblage des véhicules accompagnées de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Fidel Mujalja Binene. Julien Paluku Kaungia a été joint par Alain Rungmushinge.
Les contacts avec cette société qu'on appelle UDTrack, c'est pour nous permettre de voir comment nous pouvons l'installer dans l'une des zones économiques spéciales qui sont fonctionnelles en RDC. D'une part à Kinshasa, et d'autre part du côté de Lubumbashi, et peut-être une troisième fois du côté de l'Est, pour permettre de pouvoir faire une politique d'encerclement de l'ensemble de la République. Parce que si nous avons autant de véhicules qui sont produits dans les trois espaces ou dans les quatre espaces, ça va permettre de pouvoir rencontrer les besoins de l'ensemble de la population congolaise en matière de transport. Et donc, nous allons signer avec l'entreprise un memorandum of understanding, un MOU, pour nous permettre de dérouler une feuille de route qui nous permettra d'ici peut-être 3-4 mois de commencer à mettre en œuvre les contenus de notre feuille de route. Nous avons proposé le modèle des zones économiques spéciales à cette société pour lui permettre d'accéder à tous les avantages liés à l'importation des matières premières. Vous savez que quand on est installé dans la zone économique spéciale, on ne paie pas de frais de douane. Ça permet à ce que le produit qui est issu de la zone est plus compétitif et au niveau interne et au niveau externe. La Chine l'a fait, c'est la raison pour laquelle je l'ai toujours répété. Les gens ont l'impression que les produits chinois sont moins chers parce qu'ils viennent simplement des zones économiques spéciales.
C'est le désespoir ce mardi pour des centaines de commerçants du marché de Matadi Kibala, délocalisé près du Kampem dans la commune de Mongafula ici à Kinshasa. Un incendie a ravagé cette nuit une grande partie du marché de Matadi Kibala et des dépôts de marchandises sont partis en fumée. Avec eux, toutes les marchandises des commerçants. Ce bilan provisoire a été dressé aujourd'hui par l'administrateur du marché. Pelé Bofini a été joint par Babele Pongo Masimango.
Bon, jusqu'alors, nous sommes en train de faire les enquêtes. La cause n'est pas encore connue. Mais il y a une maison qui s'était brûlée. Hein. Comme c'était la nuit, il y avait le vent là. Ça a touché plusieurs maisons sur 57 maisons qu'on avait. C'est resté que 12. 45 ont été brûlées avec 380 tables. On avait construit 480 tables. Donc nous sommes restés avec 100 tables. Quelques marchandises ont été volées. Nous sommes en train d'inventorier. Hein. Il n'y a pas de blessures, pas mort d'homme. Donc, sauf un dégât matériel.
Politique à présent au Sud Kivu, un engouement est enfin observé à la CENI dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures. Les partis et regroupements politiques affluent pour déposer les dossiers de leurs membres pour les élections provinciales et les communales. Même des personnes vivant avec handicap se sont mobilisées quant à ce reportage à Bukavu d'Emmanuel Alamejo Kabedi.
Au Sud Kivu, il a fallu attendre les dernières minutes pour voir les partis et regroupements politiques déposer leurs dossiers de candidature à la CENI. Ce lundi 21 août à Bukavu, les militants des principaux partis politiques ont pris d'assaut les grandes artères de la ville pour conduire leurs potentiels candidats. Dans la foulée, une plus forte mobilisation des personnes vivant avec handicap. Madame Modestine Sifa, jeune entrepreneur, dépourvue de membres supérieurs et inférieurs, motive sa candidature.
Ce qui m'a motivée, c'est la confiance d'abord de nos camarades personnes vivant avec handicap. Ce sont eux qui m'ont vraiment motivé parce que on s'est rendu compte que dans l'Assemblée provinciale, on n'a pas quelqu'un qui plaide en nom de personnes en situation de handicap. Fort malheureusement, les messages ne passent pas comme on le voulait. C'est ainsi qu'on s'est mis ensemble pour la confiance qu'ils m'ont fait et ils m'ont élu pour aller déposer ma candidature.
Signalons que l'ambiance reste la même ce mardi 22 août 2023 à Bukavu. Même les antennes de BRTC de l'intérieur de la province accusent réception des dossiers de candidature pour les provinciales et les locales. Emmanuel Lamijoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Partons maintenant pour la province du Maniema où la police nationale a mis à la disposition de la population trois numéros verts pour faciliter les interventions d'urgence en cas d'insécurité. Annonce faite hier par le porte-parole de ces corps. Le capitaine Michel Lubunda affirme à Radio Kapi que ses contacts appartiennent au chef de la police, au P3 et au commandant de la ville. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Le commissaire divisionnaire vous a délégué pour vous laisser les numéros verts pour qu'en cas d'insécurité, la population de Kindu, en particulier et celle de Maniema, puisse contacter ces numéros pour une intervention ponctuelle. Il a déjà organisé les services, il y a la patrouille motorisée, il y a la patrouille pédestre qui est déjà à pied d'œuvre et que toute personne qui se sentrait en insécurité a l'obligation et le devoir de contacter et d'informer le commissaire divisionnaire à travers les numéros verts. Le premier numéro, c'est le numéro du commissaire divisionnaire, lui-même le commandant du Maniema, 099-51-351. Et le deuxième numéro, c'est celui de son chef P3, le 081-046-63-23. Et le troisième numéro, c'est celui du commandant ville de Kindu, 081-582-23. 91. Voilà les trois numéros verts auxquels les gens doivent se référer en cas d'insécurité. Bon, je demande d'abord à la population de Kindu de ne plus se référer aux anciens numéros qu'ils avaient. Les trois numéros que je viens vous dicter, ce sont les numéros qui sont désormais opérationnels. C'est gratuit.
Et puis au Nord Kivu, 1297 ménages de déplacés vivent en ce moment dans des conditions extrêmement difficiles depuis plus d'une année dans les sites de Bihito, territoire de Masisi. Des sources concordantes affirment à Radio Kapi que ces deux derniers mois, 5 personnes dont 2 enfants sont morts de malnutrition sévère. La société civile locale plaide pour une assistance humanitaire urgente en faveur de ces personnes qui manquent de tout. À Goma, la correspondance de Gabriel Ouamenia.
Les sources de la société civile locale, confirmées par celle du comité de la jeunesse du camp de Bihito, précisent que ces personnes déplacées sont venues des localités de Karenga, en groupement de Bachali Mokoto, et du village de Burungu. Les autres sont arrivés dans ces sites en provenance de Kiwanja dans le territoire de Rutshuru. Les mêmes sources confirment que c'est depuis 6 mois qu'ils s'y sont installés et la plupart vivent dans les écoles, notamment celle de Musoro, Bujiri et l'Institut Lushebere. La situation est extrêmement grave, témoigne Telesphore Mitondeke de la société civile du territoire de Masisi.
Il faut souligner des camps de décès. Il y a des enfants qui se meurent de faim, mais il y a aussi les temps de la malnutrition qui aujourd'hui a pris de l'ascenseur. Donc lorsqu'on essaie d'échanger avec les autorités sanitaires même des différentes zones de santé du territoire de Masisi, vous comprendrez avec nous qu'il y a en tout cas de l'inquiétude.
Rappelons que la situation est identique dans tous les autres sites de déplacés à travers le territoire de Masisi. La plupart des acteurs locaux contactés redoutent une rentrée scolaire apaisée dans plusieurs agglomérations de Masisi au regard des nombres de personnes déplacées et des entités désertées par les habitants suite à la persistance de l'insécurité. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Kapi.
Nord Kivu, encore la pluie diluvienne qui s'est abattue le week-end dernier sur la ville de Butembo a endommagé 8 salles de classe de l'école primaire Miséberé. Le président de la société civile de la commune de Boulengera redoute que cette situation hypothèque la reprise des cours lundi prochain dans la zone. John Kameta a été joint par Sadiki Aboubakar.
Une école primaire Épée Miséberé a perdu la toiture sur 8 salles de classe. Il y a aussi l'Institut Ngununu où une salle a aussi perdu sa toiture. Il y a aussi 4 maisons d'habitation dans la même cellule qui a aussi perdu ses toitures. Surtout pour l'école primaire, nous sommes vraiment en train de lancer un cri d'alarme comme la rentrée scolaire va arriver dans quelques matins. Et vous le savez, aujourd'hui, les écoles primaires covationnés sont en train d'être gérés en mode gratuit. Ça veut dire que les enfants ne payent rien comme frais scolaires. Or, c'est à partir même de ces frais scolaires qu'on pouvait grignoter quelque chose comme un frais de construction. Mais malheureusement, ça n'existe plus et national. Voilà pourquoi, comme société civile, nous lançons vraiment un message très vibrant aux personnes de bonne volonté, surtout aux autorités de la ville de Butembo, de voir dans quelles mesures assister cette école.
J'ajoute que le maire de la ville de Butembo, Roger Moa Baiki, affirme que son service ne dispose pas actuellement de moyens pour faire face à la situation. Restons dans la région où les transporteurs routiers opérant sur l'axe Sake-Masisi-Walikale déplorent le délabrement de cette voie de communication. S'est confiant à la presse hier après-midi à Goma, leur président affirme que si rien n'est fait, cette route risque d'être impraticable pendant la saison pluvieuse qui s'annonce. Kanane Kibando le dit à Bernard Denyangi.
Nous, comme transporteurs, on avait écrit plusieurs correspondances adressées à monsieur le gouverneur sans suite. Si nous la laissons comme ça pendant la saison pluvieuse, donc il n'y aura pas de passage. Alors on s'est dit, on peut prévenir. Nous nous sommes réunis en assemblée extraordinaire. Nous avions décidé d'une autoprise en charge. Et les transports de moellons pour essayer de boucher ces bourbiers. Donc à partir de Sake jusqu'à Kachébé. Et les transporteurs, ils vont eux-mêmes acheter les moellons, ils vont disponibiliser leurs camions pour que l'on transporte ces moellons jusqu'à destination. C'est précisément le 30 août que cette activité aura lieu, puisque quand nous, on accepte de payer la taxe péage route, et que l'attributaire qui est chargé de cette route ne s'en occupe pas pour la maintenance continuelle. Donc on s'est dit, on risque de perdre l'argent du péage et nos camions aussi. Alors on s'est dit, nous prenons les choses en main. Une interpellation de l'autorité provinciale est à Kinshasa pour qu'ils cherchent une solution appropriée pour que cette route soit maintenue.
Actualité internationale.
12 soldats nigériens ont été tués hier soir lors d'une embuscade des djihadistes présumés dans la région de Tillaberi au sud-est du pays, minée par les actes de violence des groupes armés. Une opération anti-djihadiste de la garde nationale a été visée par cette embuscade dans la commune d'Anzourou. Les officiels nigériens affirment que la riposte de la garde républicaine a permis d'infliger une lourde perte à l'ennemi. Et puis la France a indiqué aujourd'hui qu'elle avait pris note du rapport publié par Human Rights Watch accusant les gardes frontières saoudiens d'avoir tué des centaines de migrants éthiopiens et appelé en même temps les autorités saoudiennes à conduire une enquête transparente sur les allégations. Le ministre des Affaires étrangères affirme que la France aborde ces questions avec les autorités saoudiennes et appelle en même temps au respect du droit international et à la protection des populations civiles.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef des divisions provinciales des actions humanitaires de la Tchopo, Dr Antoine Lokangila, revient sur la remise le week-end dernier des intrants aux déplacés du conflit communautaire entre les Mbole et les Lingola dans le site de Konga-Konga. Il s'entretient à Kisangani avec Jacques Mukonkole.
Monsieur le chef de division provinciale des affaires humanitaires et solidarité nationale, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'assister à la cérémonie de distribution d'une assistance humanitaire par l'OMS aux déplacés. Combien de personnes sont ciblées par cet appui?
On n'a pas ciblé en termes de personnes, nous avons ciblé en termes de ménages. Les ménages que nous avons eu à cibler, ils sont au nombre de 1000 ménages qui passent leur vie tout entière dans les sites et non ceux qui sont dans des familles d'accueil d'abord.
Et tout le monde est dans le besoin. Pourquoi privilégier seulement ceux qui se retrouvent dans les sites?
Vous voyez, ceux qui se trouvent dans les sites, qui ne bougent nulle part, ça montre que non, ils n'ont nulle part pour partir. Donc, à part leur village d'origine, et ici à Kisangani, donc, eux ne font que vivre dans les sites. Donc, ceux qui sont dans les familles d'accueil, et ils peuvent encore bénéficier de la contribution de la communauté pour essayer un peu à remonter leur vie.
Combien de sites avez-vous installés dans la ville de Kisangani?
Depuis le début de cette atrocité, nous avons le site de Konga-Konga où nous sommes dans la commune de Kisangani. Il y a aussi des centres collectifs à la commune de Lubunga, dont le centre collectif de Sainte-Marthe et le centre collectif de Lokusa. Mais avec le dernier pour parler avec l'Excellence Madame la Ministre et le bourgmestre de la commune de Lubunga, nous sommes décidés qu'on envisage comment réduire ces deux centres collectifs en un seul site. Et comme Lokusa, c'est un domaine militaire et que les humanitaires ne peuvent pas y accéder selon leurs normes, nous voulions à ce que toutes les personnes déplacées qui sont dans le cas Lokusa viennent s'associer à ceux qui sont dans les centres collectifs de Sainte-Marthe. Et là, on constitue un site de la commune Lubunga. Et donc, on aura deux sites, un au niveau de la commune Kisangani et un site au niveau de la commune Lubunga.
Aujourd'hui, quel est le nombre de déplacés enregistrés dans ces différents sites?
Au niveau de ces sites où nous sommes, il y a environ 6000 qui sont enregistrés dans ces sites. Et dans le site de Lubunga, si nous fusionnons les deux centres collectifs, nous sommes à 14 400 personnes déplacées.
Globalement, comment se présente la situation humanitaire de tous ces déplacés internes?
La situation humanitaire de toutes ces personnes déplacées est catastrophique. Ils se sont déplacés à la hâte, ils ont tout laissé. Donc, ils n'ont pas de matelas, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas aussi même à prendre les soins médicaux. Et heureusement, l'OMS fait appuyer en quantité de médicaments. Et la situation aussi des élèves qui ont eu à se déplacer avec leurs écoles, avec cette rentrée scolaire. Alors nous avons des élèves qui ont beaucoup d'élèves, plus de 1115 élèves déplacés risqueront à louper cette rentrée scolaire.
Et alors, Quelles dispositions avez-vous prises avec les autorités de la place pour essayer de permettre à ces enfants de rentrer dans leurs écoles?
Je pense qu'au sein de notre province, nous avons une agence des Nations Unies qui est l'UNICEF, qui s'occupe de l'éducation des enfants. Cette organisation humanitaire est déjà au courant avec tous ces chiffres et je pense qu'il va faire son management pour essayer un peu à répondre favorablement à l'éducation de ces enfants.
La sécurité n'est pas encore assurée dans leur milieu. Pensez-vous que la situation sécuritaire pourrait s'améliorer d'ici là?
Jusqu'à maintenant, je pense que dans le Lubunga Centre, il y a une accalmie, il y a une sécurité, les activités reprennent. Mais dans les interlandes de la commune de Lubunga, d'ailleurs l'avant-hier, c'était la nuit du 15 au 16, il y a eu encore des tueries.
Par rapport à la situation humanitaire dans les sites, il semble qu'il y a eu des cas de décès. Combien de décès avez-vous enregistré depuis qu'ils sont là?
Depuis qu'ils sont là, nous sommes en 22 décès. 22 décès occasionné par l'anémie et il y a aussi la malnutrition, forme globale, et il y a aussi le paludisme.
Alors, quelles sont les dispositions envisagées pour faire face à cette situation?
Il y avait des sensibilisations, il y a eu les activités de la vaccination organisées au profit des PDI, mais après ces activités de la vaccination, nous avons vu un peu une accalmie dans le cadre des décès.
Monsieur le chef de division des affaires humanitaires, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef des divisions des affaires humanitaires de la Tchopo, Dr Antoine Lokangila, intervenait au micro de Jacques Mukonkole à Kisangani et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.